Alors, quand je pars le matin au travail, moi, pas forcément, moi ou quelqu'un d'autre, hein, quand nous partons le matin au travail, comment on commence notre journée? Peut-être vous avez un petit rituel. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites, bon, ou que vous faisiez avant de partir au travail? Est-ce que vous aviez un petit rituel ou pas? Oui?
Prière, mais ça c'est
Ok.
que ce soit le travail ou pas, ça n'a pas changé quoi.
Ok. Donc tu te lèves, un temps de prière, le petit déj, un petit coup à la salle de bain peut-être, etc. Voilà, ok. Dans ces moments-là, c'est des moments voilà, habituels, on fait des fois les choses complètement machinalement. Peut-être on est en train de penser déjà à ce que va être notre journée, etc. On commence tout doucement à être préoccupé par deux, trois petites choses et on se parle des fois un petit peu à soi, hein, dans ces moments-là. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi. Qu'est-ce qu'on pourrait bien se dire dans un moment pareil où on prépare un petit peu mentalement, où on se prépare à vivre la journée qui est devant nous? Qu'est-ce qu'on pourrait se dire?
C'est surtout quand on a un certain trajet dans la voiture,
Oui.
on a tout fait ce qu'il fallait avant, qu'on peut alors à
OK.
ce moment-là demander au Seigneur de nous donner, moi quand j'allais auprès des enfants, de me donner la sagesse, le discernement, voilà, tout,
OK.
de donner la réussite dans ce qu'on va faire.
Ok, très bien. Peut-être on se dit ben, courage hein, pour la journée qui est devant toi. On essaye voilà, de positiver un petit peu. Il y a un verset dans la Bible qui nous indique la direction à suivre, et ce sera le thème de ce soir. C'est un texte qui ne parle pas spécifiquement du travail, de l'activité professionnelle, mais son champ d'application est tellement large qu'il englobe aussi le monde du travail. C'est un petit bout de verset dans Galates 6, verset 10, qui nous dit ceci: faisons du bien à tout le monde. Faisons du bien à tout le monde. Et on va voir le contexte aussi ensemble ce soir de ce verset. Et donc c'est un peu le thème de cette dernière étude: faire du bien au travail. Ah, là, je l'ai un petit peu reformulé. On va voir tout à l'heure plus précisément le texte. Et le texte précise, hein, tant que nous en avons encore le temps, faisons du bien à tout le monde, et en particulier pour ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Voilà. Et puis, il y a d'autres versets encore avant. Alors, si on se demande justement quoi faire au travail, eh bien, on a la réponse: faire du bien. Si on se demande comment faire son travail, ben, fait du bien à tout le monde. Si on se demande comment trouver la motivation au travail, fait du bien à tout le monde. Et si on se demande quelle est la priorité à notre travail, eh bien c'est encore une fois de faire du bien à tout le monde. Et quand on parle de travail, hein, on parle de notre activité au sens large cette année, c'est l'occupation principale que Dieu nous confie. Pour beaucoup, dans l'Église, ben, c'est encore un travail rémunéré. Pour d'autres, ce sera une vocation d'engagement associatif. Pour d'autres, ce sera même d'être au foyer, vocation parentale à temps plein. Pour certains, un service voilà, bénévole aussi qui va occuper une grande partie de leur temps. Et puis pour les jeunes aussi, ben, c'est l'école. Quelque part, ce travail pour eux, c'est l'école, le collège, le lycée, les études. Aujourd'hui, c'était l'écrit du bac de français, je crois, dont Evelyne, en tout cas, a passé cette épreuve. C'est donc la notion de travail au sens large, même pour les jeunes, même si pour l'instant, ils ne sont pas encore payés pour travailler à l'école. Alors, faire du bien à tout le monde et le faire en tant que chrétien. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a une différence entre des chrétiens qui font le bien et d'autres personnes, des athées ou alors des croyants d'une autre religion? Est-ce qu'il existe une manière chrétienne de faire le bien au travail? Alors déjà, premièrement, pas besoin de se voiler la face, hein, on n'est pas les seuls à savoir faire le bien. Et à faire le bien autour de nous, hein. C'est pas nous qui détenons l'exclusivité de la pratique en matière du bien. Dans certains domaines, les non-chrétiens font même mieux que les chrétiens. Régulièrement, moi, je suis régulièrement bouche bée devant la capacité qu'ont certains non-croyants à faire du bien aux autres, à s'occuper de ceux qui sont délaissés, à avoir un esprit de service qui va jusqu'au sacrifice, y compris au travail, pour des personnes qui ne sont pas forcément animées et motivées par la foi chrétienne. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité en tant que chrétien? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier et d'unique? Alors, je pense que oui, et en fait, on va le voir en fait en lisant le contexte de cette exhortation de Paul. Donc, c'est les versets 7 à 10 de Galates 6 qui forment en fait un tout. Et il ne faudrait pas isoler seulement le verset 10 des versets qui le précèdent. Si on regarde les versets 7 et 8, c'est « Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. » Alors voilà, on a ces deux versets, versets 7 et 8. À première vue, il n'y a pas de rapport évident entre ces deux versets et l'exhortation à faire du bien qui va suivre, mais c'est à première vue. Il faut quand même comprendre cette image d'abord de la semence dont Paul nous parle ici. La semence et la moisson, c'est une image qu'il reprendra pour parler en fait de la pratique du bien. On sème le bien, on récolte le bien, etc. Celui qui sème selon la chair récoltera la corruption. Celui qui sème pour l'esprit récoltera la vie éternelle. Mais avant ça, il dit, ne vous faites pas d'illusions aussi. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Donc, dans cette image de la semence, de la moisson, il faut y voir une image pour décrire finalement la conduite que nous avons en tant qu'êtres humains sur la terre. Ça, c'est la semence. Par toute notre conduite, on va semer un certain nombre de choses. Et peut-être que la récolte, c'est le jugement. Le jugement final, on récoltera un jour ce qu'on a semé. Le bibliste suisse que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pierre Bonnard, il a écrit un certain nombre de commentaires bibliques, dont un merveilleux commentaire sur le sermon sur la montagne. Il a écrit que cette image donc de la semence et de la récolte souligne le sérieux de la vie concrète de l'homme à cause de l'imminence du jugement dernier. On récoltera ce que l'on a semé. Récolter, c'est recevoir le fruit. Et le fruit, dans la perspective du jugement de Dieu, c'est un verdict d'approbation ou de condamnation. Et Paul est bien dans ces deux façons de vivre, hein. Puisqu'il nous parle de semer pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même. Alors ça, c'est littéralement celui qui sème pour sa chair, et ça a été traduit dans la Bible du semeur, semer pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même. Vous savez que la chair, ça a été traduit dans la semeur par l'homme livré à lui-même. L'homme vit selon la chair, c'est l'homme qui vit sans Dieu, voilà, lui tout seul. Ou alors soit on sème pour l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Semer pour sa chair, c'est en fait, je pense que là, vraiment la Bible du Semeur a raison, c'est vraiment vivre comme si Dieu finalement n'existait pas. C'est pas forcément vivre dans une immoralité flagrante, c'est simplement vivre sa vie sans tenir compte de celui qui l'a créé, cette vie. C'est simplement vivre comme si Dieu n'existait pas, livré à nous-mêmes. Alors, probablement, ça entraîne aussi un certain nombre de faux pas. Heureusement, il existe une meilleure option, c'est de semer pour l'Esprit. Et celui qui sème pour l'Esprit recevra, moissonnera ce que produit l'Esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Semer pour l'Esprit, c'est vivre pour plaire à l'Esprit. C'est se soumettre à la voix de cet esprit. Bonsoir. Et ce que nous dit ce texte, c'est que la personne qui vit dans, ce deuxième chemin, qui est le chemin de l'esprit, moissonnera la vie éternelle, et la vie éternelle, c'est le salut final après le jugement de Dieu, ce verdict d'approbation que Dieu aura pour tous ceux qui sèment pour l'esprit. Alors, si on isolait ces deux versets du reste de l'Épître, on pourrait se dire, et même avec ce que je viens de vous dire là, est-ce que Paul n'est pas en train, quelque part, de développer une espèce de théologie des œuvres, hein, en quelque sorte? Ben, si vous faites le bien, vous serez approuvé par Dieu, et faire le bien, ça voudrait dire semer pour l'esprit. Et puis, si vous vivez sans vous soucier de Dieu, alors, eh bien, vous serez condamné. Mais on ne peut pas dire ça, parce que dans tout le reste de l'Épître aux Galates, Paul justement s'évertue à montrer le contraire, que c'est la grâce qui compte et que ce n'est pas les œuvres. Hein. Il n'arrête pas de dire ça aux Galates, il les traite même d'insensés, parce qu'ils pensaient qu'en respectant la loi, ils auraient l'approbation de Dieu. Pourtant, on ne peut pas simplement se dire « j'ai la foi, et puis voilà, je m'arrête là, et puis ensuite je vais simplement attendre que cette foi produise du fruit, ou des fruits. » Notre texte, justement, nous rappelle que peut-être on a une responsabilité aussi. C'est un appel à l'action. Comme le dit aussi un commentateur, Douglas Moo, « il nous est commandé ici de produire l'évidence de notre foi. » Alors, ok, c'est bien beau, mais comment on fait? Comment on fait pour être dans cette voie que Paul qualifie ici de semer pour l'esprit? Vivre d'une manière qui plaît à l'esprit? Eh bien, c'est justement dans les versets suivants que Paul va répondre à ça. Et donc là, on y vient. Semer pour l'esprit, c'est faire du bien autour de nous. Et le texte dit même faire du bien à tout le monde. Il dit au verset 9, « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Faire le bien, c'est pas avoir forcément des conversations interminables où on refait le monde et on se dit « Ah, ce serait tellement mieux si c'était comme ci, si c'était comme ça. » Faire le bien, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. C'est faire quelque chose, une action précise par amour. Un des réformateurs disait « Il y a deux jours qui comptent dans mon calendrier, aujourd'hui et le jour du jugement. » Je trouve que c'est sympa, avec un petit peu d'humour aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, ben, il y en a plein des aujourd'hui quand même dans notre vie. Mais il y a deux jours qui comptent, c'est aujourd'hui et le jour du jugement. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le bien, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Il y a une place pour les efforts. Ne relâchons pas nos efforts. Ce texte nous encourage à faire des efforts, à persévérer dans les efforts qu'on fait. Parce que si on ne relâche pas nos efforts, alors on récoltera au bon moment. Ce sont des efforts qui ont leur place dans la vie chrétienne, mais qui sont motivés par la grâce de Dieu. Et vient ensuite donc ce verset 10. « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, » et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Alors si on suit bien et correctement le raisonnement de Paul, Paul nous demande de semer pour l'esprit, et avant ça, au chapitre 5, au début du chapitre 6 aussi, il nous a dit que l'esprit justement produisait du fruit. Et finalement, ces deux aspects sont étroitement liés l'un avec l'autre. On porte du fruit grâce à l'action de l'esprit en nous, puis on sème pour l'esprit. C'est assez intéressant de voir ça dans la pensée de Paul. On a là comme un espèce de cycle, on pourrait dire, de cycle de l'esprit, de cycle vertueux. Hein. L'esprit produit du fruit, et puis nous, on sème aussi pour l'esprit qui produit du fruit, etc. Un petit peu comme dans la nature où ce sont les fruits des arbres qui déposent leurs propres graines et font d'autres arbres. L'amour, la joie, la paix, la patience, hein, toutes ces choses que l'Esprit produit en nous, bien on est amené à les ressemer aussi quelque part pour que l'Esprit porte encore du fruit, encore plus de fruits autour de nous. Nous semons pour l'Esprit, mais nous semons aussi par l'Esprit, grâce à lui. Et on ne trouve rien de semblable dans toutes les religions du monde, hein. C'est absolument unique au christianisme ce que Dieu nous demande de faire. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour le vivre. C'est le théologien saint Augustin qui, au 5e siècle, a dit « Avec la grâce de Jésus-Christ, Dieu ordonne ce qu'il donne. Quand Dieu ordonne quelque chose aux chrétiens, il leur donne tout le nécessaire pour qu'ils soient en mesure d'obéir. Dieu ordonne ce qu'il donne et il donne ce qu'il ordonne. » Vous connaissez cette citation connue. Et bien dans notre texte, on a effectivement ça. Dieu ordonne de semer pour l'esprit en faisant le bien et il nous donne le fruit de l'esprit pour y parvenir. Donc faisons du bien à tout le monde. Tout le monde, c'est qui tout le monde? Ben, c'est toutes les personnes que nous avons l'occasion de rencontrer ou d'aider. Je pense que ça rejoint un petit peu cette idée aussi dans les évangiles, dans la bouche de Jésus, du prochain. Hein. Aime ton prochain comme toi-même, faites du bien à tout le monde. Et la fin du verset précise, en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Moi, c'est un verset qui m'a tout petit peu dérangé quand je l'ai lu, mais parce qu'on peut le lire un petit peu de travers, en se disant, est-ce que Paul nous demande de choisir à qui on fait le bien, et si on a le choix alors entre faire du bien à un chrétien et à un non-chrétien, alors choisissons, faisons d'abord le bien à un chrétien. Non, c'est pas ce que le texte dit. On pourrait le lire comme ça, mais à mon avis, on ferait fausse route. Paul dit plutôt, quand vous cherchez à manifester l'amour autour de vous, concrètement, eh bien, c'est sans doute dans la famille de Dieu, dans l'Église, que vous aurez les premières occasions de le faire. Donc, en premier lieu, il faut peut-être le voir, pas un ordre forcément de priorité, mais peut-être que c'est là, de façon plus évidente, qu'on manifestera l'amour autour de nous, dans l'Église. C'est sans doute dans l'Église qu'on trouvera les premières occasions de le faire, parce que, bien, au temps de Paul comme aujourd'hui, ben, l'Église se réunit, on se connaît un petit peu, des fois un peu mieux aussi, on est proche, plus ou moins proche les uns des autres, et donc conscient aussi des besoins des uns et des autres. Paul nous dit, commencez par les besoins que vous avez directement autour de vous, et particulièrement ceux que vous pouvez voir dans l'Église, mais ne vous arrêtez pas là, hein, puisque l'expression dit bien, faites du bien à tout le monde, poursuivez dans toutes les sphères de la société, y compris là où vous êtes, sur votre lieu de travail, toute la semaine. Alors voilà pour le verset lui-même et quelques éléments de contexte. Et puis maintenant, un petit peu l'application de tout ça. Faire le bien au travail, c'est d'abord, j'ai envie de dire en tout premier, c'est bien faire son travail. Parce que bien faire son travail, ça contribue au bien des autres. Et donc en faisant bien mon travail, je fais aussi du bien aux autres. Personne n'est gagnant quand on fait mal son travail. Quand quelqu'un fait mal son travail, personne n'est gagnant. Alors il ne s'agit pas seulement d'accomplir une bonne action au travail, ou de faire le bien ou du bien pendant les pauses, d'être gentil avec ses collègues, de rendre service, d'offrir, de remplacer une collègue débordée. Tout ça, c'est très bien. Mais peut-être dans un premier temps, c'est déjà viser une bonne qualité de notre propre travail. La meilleure qualité possible dans le travail lui-même. Parce que si on veut aimer son prochain comme nous-mêmes, eh bien, ça passera aussi par la qualité du travail et donc du service ou du produit qu'on contribue à apporter à la société. Peut-être que c'est plus évident pour ceux qui travaillent dans le domaine du social, parce que là, on voit peut-être plus directement le bien qui est fait à une personne. C'est plus direct, mais en fait, je pense que ça concerne tous les secteurs d'activité. Même quand le bien va se faire indirectement pour les autres, parce que finalement, tout travail est là pour améliorer la condition humaine, un aspect de la condition humaine, en proposant alors soit un produit ou alors un service. Il n'y a pas d'emploi dont le but et la finalité, au bout du compte, n'est pas d'améliorer la situation de quelqu'un par un produit ou un service. Peut-être que notre rôle aussi particulier dans cette immense chaîne de tous ceux qui travaillent autour de nous paraît insignifiant. Par exemple, si on passe 8 heures d'affilée sur une chaîne de montage à faire une tâche très répétitive, etc., on aura moins l'impression de faire du bien aux autres. Et pourtant, si on prend du recul, c'est quand même bien ça qui a été fait en tant qu'un maillon dans la chaîne. C'est une équipe qui travaille, c'est une société qui travaille. Et bien, on y contribue, on fait une petite partie de ce travail. Mais le résultat final est que du bien est fait, et plus la qualité du travail est bonne, plus le bien sera évident. Quelques dangers à éviter si on veut bien faire son travail. Alors le premier, c'est justement d'y aller de façon avec un comportement un petit peu indifférent. On est au travail, on y va parce qu'il faut y aller, mais on n'est pas vraiment présent, on ne s'implique pas, on ne se soucie pas de l'objectif commun. Ça, ce serait un premier danger. Le laisser aller, ça va un petit peu avec aussi, la négligence, la loi du moindre effort, en se disant je fais juste le minimum pour ne pas être licencié. Là, c'est sûr que la qualité du travail produit ne sera pas bonne avec un état d'esprit comme celui-là. Et l'instrumentalisation du travail aussi, en disant finalement le travail il est juste là pour moi, je ne regarde plus l'objectif commun qui est de faire du bien à d'autres. Tout ce qui m'intéresse, c'est moi et donc le salaire que je vais toucher à la fin du mois et que je pourrai ensuite dépenser le week-end et pendant les vacances. Plus subtil aussi peut-être, parfois on pense qu'on recherche l'excellence professionnelle alors qu'en fait on ne recherche que l'apparence de l'excellence. Par exemple, on peut avoir cette pensée, si je fais ceci, alors tout le monde au bureau va croire que j'ai travaillé dur. Et peut-être que cette chose-là, c'est même pas quelque chose qui nous est demandé, vraiment et spécifiquement dans le cadre de notre travail. Mais on veut donner l'apparence de l'excellence du travail. Une belle présentation devant les collègues, on va brandir une statistique qui nous avantage, on va produire de beaux graphiques en couleur, mais qui ne révèlent qu'une partie de la vérité. On apprend à maîtriser ce qui impressionne, même si au fond, ce n'est pas vraiment la tâche qui nous est demandée. Et je pense que il y a un peu de ça, ouais, peut-être. Aussi, il faut faire attention. On peut aussi viser l'excellence au travail, non pas en pensant au bien des autres, mais pour, quelque part, s'auto-justifier, en se disant que, par exemple, un travailleur social ou une infirmière pourrait penser que son travail est valorisant parce que les autres ont besoin d'elle. Et donc c'est non plus forcément dans la motivation le bien de l'autre qui compte, mais c'est finalement se valoriser soi-même. Besoin de prouver quelque chose. On peut être aussi parents à temps plein, par exemple, parce qu'on se construit une image de soi sur la réussite de nos enfants. On vit pour eux, et alors s'ils échouent, notre identité de parents, elle vole en éclats et en mille morceaux. C'est valable aussi au travail. Est-ce qu'on veut performer, je ne sais pas si ça se dit, au travail, pour justifier notre existence ou alors pour servir notre prochain? Et là, on peut faire exactement le même travail, mais la motivation et l'objectif ne sera pas le même. Faire le bien au travail, c'est faire du bien aux personnes que nous y rencontrons, évidemment. Ça va passer par les relations, le relationnel avec les collègues. Certains, peut-être, sont naturellement, de par leur caractère, ouverts, on dit extravertis, tournés vers l'autre et ont le contact facile. Pour d'autres, ce sera plutôt le travail, les tâches à accomplir, etc. On n'est pas tous pareils à ce niveau-là. Mais je pense pouvoir dire qu'en tant que chrétiens, nous devrions tous être tournés vers les personnes, au moins dans une certaine mesure. Vers les collègues, mais aussi vers les patrons, les employés, les clients, les patients, les concurrents, les partenaires, etc. Parce que dans notre société, c'est ça qui manque, beaucoup. le relationnel, le contact. Si on fait des efforts à ce niveau-là, ça ne passera pas inaperçu. Et si on réfléchit, en fait, on passe énormément de temps avec nos collègues de travail. Plus en quantité de temps, en tout cas dans la semaine, c'est très clair, qu'avec les membres de notre propre famille. Donc, c'est un lieu privilégié de relation. On passe en tout cas clairement beaucoup plus de temps avec les collègues de travail qu'avec même nos frères et sœurs dans l'Église. C'est évident. Et donc, à la longue, on va finir par se connaître. On va les connaître, nos collègues, pour le meilleur et pour le pire. On va vivre des choses ensemble qui peuvent être très fortes. Je me souviens de Thomas Maurer, une fois, qui me disait qu'à la SNCF, il y a un esprit de famille qui est très fort. Et il a vécu des choses très fortes, notamment quand il était malade. Il avait des collègues qui l'appelaient toutes les semaines, si ce n'était pas plusieurs fois par semaine, pour savoir comment il allait, et pendant une période assez prolongée. Avec nos collègues, on va monter des projets, on va relever des défis, on va traverser une épreuve, on va faire face à la concurrence, on va peut-être même susciter de petits changements dans la société grâce à une innovation ou un nouveau service. On va peut-être même, en se serrant les coudes, sauver une entreprise qui pourrait aller à la faillite. On va célébrer des victoires, on va pleurer certaines défaites collectives. On va se retrouver dans des situations stressantes, les masques vont tomber, et on va découvrir des facettes de certaines personnes qu'on pensait avoir cernées, et bien non, on en découvre encore d'autres. Il se passe des choses assez profondes entre collègues, et la relation entre collègues, ou avec des supérieurs, ou avec des employés, a quelque chose d'unique, il n'a pas forcément d'équivalent. Dans la famille, c'est complètement autre chose. Dans l'Église aussi. Je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons y voir des occasions aussi, des opportunités à servir, des occasions des opportunités pour le service aussi, hein, des occasions de servir, d'aider, de conseiller, d'écouter, de compatir, d'accueillir, d'encourager. À la dernière réunion de prière du CNEF, là, lundi soir, le thème, c'était l'encouragement. On peut encourager avec des paroles, mais on peut aussi encourager avec des actes, avec une attitude, un comportement, etc. Et peut-être, est-ce qu'on le fait dans le cadre du travail? Est-ce qu'on a conscience que le Seigneur nous a placés aussi là où il nous a placés pour qu'on ait aussi ce rôle autour de nous? C'est aussi au travail, peut-être, que ce sera difficile de mettre en pratique certaines exhortations bibliques. Pardonner à un collègue qui nous a offensés. C'est pas simple de rendre le bien pour le mal, comme nous dit l'Épître aux Romains, de célébrer le succès des autres en renonçant à la jalousie, de faire face à des injustices, de ne pas être reconnu à sa juste valeur, parce que ça aussi, on le vit au travail. De supporter les mauvais caractères. Alors, faire du bien aux personnes avec qui on travaille, c'est pas seulement apporter une petite touche de générosité et de bonne humeur quand tout va bien, c'est aussi apporter cela quand les choses vont mal. C'est aussi aimer nos collègues quand les choses sont stressantes. C'est sympathique d'apporter des croissants pour tout le monde au bureau le matin. Mais ce sera encore plus remarqué de faire le bien quand la pression monte, de rester sensible aux autres et de ne pas se focaliser sur soi-même uniquement, quand les choses sont plus difficiles, quand on est victime aussi d'une mauvaise décision, aussi peut-être de la part d'un collègue ou d'un supérieur. On sait pertinemment que ce que le patron a dit va nous coûter cher. Eh bien, il va falloir supporter ça. Faire le bien au travail, c'est supporter ça le mieux possible dans un esprit de paix. Peut-être aussi en dénonçant des fois des choses, mais en osant parler de façon constructive. Hein, la Bible nous invite à dire la vérité dans l'amour. Et enfin, faire le bien au travail, c'est aussi faire le bien au-delà du travail. Alors je m'explique, à la pause café, les collègues souvent à ce moment-là On va parler d'autre chose que le travail lui-même aussi. C'est une façon de vraiment faire la pause dans le travail. Et donc, on va être au courant, peut-être, de quelqu'un qui de la famille d'un collègue qui a un problème de santé, ou peut-être même on va être une oreille pour un collègue qui va nous confier quelque chose qui ne va pas dans son couple ou avec un de ses enfants, etc. Soyons à l'écoute, et même si on ne pourra pas aider forcément ce collègue dans le cadre professionnel, on peut toujours se voir aussi en dehors. Ce serait facile de faire comme si on n'avait rien entendu, d'ignorer les besoins. Ça, c'est dans le Bon Samaritain, on a ça, dans la parabole du Bon Samaritain. Il y en a qui passent à côté d'un gros besoin sans rien faire. Et Jésus nous invite à faire ce qui est placé là, sur notre route. Aimer notre prochain. Il y a une société qui fabrique des barbecues au Canada ou aux États-Unis, je ne sais pas où exactement, et qui a conçu une pub assez intéressante et qui a filmé pour cette pub des gens à leur insu. Et la scène se passe en pleine campagne, dans un coin qui est complètement perdu, et il y a un camion qui est immobilisé sur le bord de la route, le capot ouvert, et il y a une grosse fumée qui vient de ce capot. Et puis, il y a une question qui est posée en ces termes-là, hein, dans la publicité: y a-t-il encore des bons samaritains? Et puis alors, au début, les voitures passent sans s'arrêter, une après l'autre. Et puis à un moment, il y a un homme qui s'arrête pour voir ce qui se passe. Alors il descend de sa voiture, il s'approche du camion. Et là, aux surprises, il voit que ce n'est pas le moteur qui fume, mais que le camionneur avait installé le barbecue de cette fameuse marque. Et puis donc voilà, qui laissait se dégager une grosse fumée. Et le propriétaire du camion dit à l'homme qui vient d'arriver... il pique une saucisse sur son barbecue, il dit: vous en voulez une? Et le bon samaritain il dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là sur l'autoroute, le barbecue? Il lui dit parce que vous êtes arrêté, me donner un coup de main, alors je vous offre gratuitement un barbecue, voilà, de cette marque. Faisons le bien, voilà, en sachant que nous sommes filmés. Hein, nous sommes filmés par les caméras de Dieu, bien sûr, bientôt par les caméras aussi de la ville. Hein. Si vous baladez à Londres, par exemple, je crois qu'il y a 5000 caméras. Donc, en fait, ils peuvent voir toute la ville. Je crois qu'il n'y a pas un endroit de Londres où on puisse mal se comporter sans être vu. Mais en tout cas... Même dans les endroits où on est un petit peu moins surveillé pour l'instant, on est toujours filmé par les caméras de Dieu. Et puis en plus, les caméras de Dieu, elles sont un petit peu plus puissantes, c'est-à-dire qu'elles arrivent à voir à l'intérieur. Que même si l'extérieur apparaît correct, Dieu voit aussi à l'intérieur. Alors aidons aussi, voilà, ce que nous avons autour de nous dans leur vie personnelle. Ça nous demandera un effort, sans doute. Mais ça en vaut vraiment la peine. Ne soyons pas comme ces bons samaritains qui passons à côté de tout ce qu'on peut entendre sans s'en saisir. Voilà. Et puis prions aussi. On ne peut pas non plus répondre à tous les besoins forcément, mais il y en a certains que le Seigneur déposera sur notre cœur si on prie dans ce sens-là. Et je voudrais conclure, mais on pourra avoir un temps de partage bien sûr encore après, en disant qu'une carrière... c'est finalement très court par rapport à l'éternité. Au jugement dernier, nos collègues seront présents. Faisons le bien dans la perspective de l'éternité. Le travail, c'est un des meilleurs endroits pour développer des relations qui nous permettront d'offrir l'espérance en Jésus-Christ. Pas forcément offrir l'espérance en Jésus-Christ sur le lieu de travail, mais ça commence là par un témoignage, un travail bien fait, une attention aux autres. Faire du bien au travail.